Suite à la deuxième invasion de l'Irak, le musée archéologique de Bagdad a été pillé, ce qui représente une perte considérable pour toute l'humanité. Heureusement, la plupart des objets volés avaient déjà livré leurs secrets. Parmi ceux découverts à Babylone, les plus importants sont des petites tablettes recouvertes d'inscriptions cunéiformes. Une dizaine d'entre elles, appelées les chroniques babyloniennes, ont été publiées pour la première fois en 1887 et contiennent le récit des principaux événements concernant les affaires internes de Babylone. Parmi les faits consignés, plusieurs confirment des récits bibliques comme l'assassinat du roi assyrien Sennachérib, la chute de Ninive, la capitale assyrienne, la victoire de Nabucodonosor sur l'Égypte à la bataille de Carchemish, la prise de Jérusalem à la fin du royaume de Juda, ainsi que la chute de Babylone. Or, et contrairement à sa réputation, Babylone n'a pas fait qu'abriter des despotes les uns à la suite des autres, puisque le prophète Daniel y a également vécu. Je commence de lire le premier chapitre du livre qui porte son nom. La troisième année du règne de Ioachim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, partit pour assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Ioachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabucodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Nous sommes à cheval sur les années 606 et 605 avant Jésus-Christ, et il s'agit de la troisième année de Ioachim. Selon la manière babylonienne de compter le règne d'un roi, qui est de ne pas prendre en compte l'année de son ascension au trône. Par contre, selon le système de datation juif qu'utilise Jérémie, nous sommes dans la quatrième année du règne de Ioachim. Il s'agit en fait de Éliakim, le fils aîné du bon roi Josias, qui fut placé sur le trône de Juda par le pharaon Nécho, qui changea son nom en Ioachim. Mais ce roi abandonne l'Éternel, s'adonne à l'idolâtrie et persécute le prophète Jérémie. Pendant ce temps, Nabucodonosor écrase le pharaon à Carchemish, puis décide de punir Ioachim, allié à l'Égypte. C'est la première attaque contre le royaume de Juda et Jérusalem capitule. Nabucodonosor enchaîne Ioachim avec l'intention de l'emmener à Babylone. Mais pour des raisons qu'on ignore, il change d'avis, lui fait grâce, le laisse à Jérusalem comme un vassal et l'assujettit à un tribut. Par contre, il déporte un contingent d'Israélites dont Daniel fait partie. Trois ans plus tard, Ioachim, qui compte encore sous la pluie de l'Égypte, se révolte. Il est alors attaqué par ses voisins et des bandes de Chaldéens, à la solde de Nabucodonosor, qui arrive en personne en 597 pour faire le siège de Jérusalem. Pendant cette deuxième attaque, Ioachim meurt dans des circonstances mystérieuses et son corps est jeté hors de Jérusalem où il est enterré sans tambour ni trompette, comme un âne en accord avec une prophétie de Jérémie à son sujet. Son fils Ioachim, alors âgé de 18 ans, lui succède. Mais après seulement 3 mois de règne, il est emmené prisonnier à Babylone par Nabucodonosor. En même temps, qu'un second contingent d'aristocrates qui inclut le prêtre prophète Ézéchiel. Sédécias, oncle de Ioachim, est alors placé sur le trône, mais lui aussi finit mal, très mal même, car en 587, Nabucodonosor détruit Jérusalem et le temple, égorge ses fils devant lui, puis lui fait crever les yeux et l'emmène à Babylone où il meurt. C'est donc lors de la première invasion de Juda que Nabucodonosor déporte Daniel et emporte une partie des objets sacrés du temple à Babylone, sa capitale, qui, selon la terminologie antique, s'appelle pays de Shinear. Le roi met alors ses trésors dans le temple de sa divinité principale, qui se nomme Bel ou Marduk. À cette époque, une conquête réussie est considérée comme la preuve de la supériorité du dieu du vainqueur sur les divinités des vaincus. Avec cette intrusion dans Jérusalem de Babylone, qui est une nation païenne, commence le temps des nations, dont parle Jésus, et qui consiste en une perte de souveraineté partielle ou totale d'Israël sur le territoire que l'Éternel a donné à Abraham. Cet état qui dure toujours ne cessera que lorsque le Messie reviendra sur terre pour rétablir son royaume de 1000 ans. Je continue le texte. Le roi ordonna à Yapenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Littéralement, Ashpenaz est appelé chef des eunuques. C'est un haut fonctionnaire et le grand chambellan qui a la charge de tout le personnel du palais de Nabucodonosor. La présence de ces jeunes Israélites à la cour du roi est l'accomplissement d'une prophétie d'Isaïe que je lis. « Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Il faut savoir que dans l'Antiquité, le nom « eunuque » est appliqué à tout officier servant auprès d'un roi et pas seulement à des eunuques qu'on a châtrés. En effet, dans la Genèse, il est écrit que les Madianites ont vendu Joseph en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon. Or, on sait que ce personnage n'est pas un eunuque au sens propre du terme, car c'est un mari jaloux. Les jeunes Israélites de famille noble n'ont pas été emmenés à Babylone en qualité de prisonniers ou d'otages pour garantir l'obéissance au roi Joachim. Car lorsque ce dernier s'est révolté, les jeunes gens n'en ont souffert aucune conséquence. En effet, selon les us et coutumes de l'époque, quelques-uns des plus nobles représentants des peuples conquis étaient simplement destinés au service du roi vainqueur. Ce dernier pouvait aussi attendre de ces étrangers plus d'indépendance et de vérité que de la part de ses propres mages et conseillers. Ces jeunes Israélites sont adolescents, et on sait que les Perses commencent l'éducation des enfants nobles à 14 ans afin qu'ils soient prêts à servir le roi à 17 ans. Je continue le texte. Ces jeunes gens, sans défaut physique, et de belle apparence, devait être doué d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Quand on fait son marché, on s'efforce de choisir de beaux légumes. Eh bien, c'est pareil pour le grand chambellan. Les Israélites qui sont formés aux affaires de l'État sont triés sur le volet. Ça ne colle pas très bien avec la philosophie actuelle où tout le monde, il est beau et il est gentil. Mais c'était comme ça. Au niveau physique, ces jeunes gens ne doivent pas avoir la moindre infirmité ou handicap. Et ils doivent avoir une apparence susceptible de plaire au grand public. Je sais que dans le temps, on choisissait les hôtesses et les stewards de cette façon. Aujourd'hui, peut-être aussi, mais il ne faut pas le dire. Au niveau mental et intellectuel, ces jeunes doivent être brillants et désirer acquérir de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Au point de vue social, ils seront avenants et courtois de façon à pouvoir représenter avantageusement leur maître. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, l'expression « la langue et la littérature des Chaldéens » ne désigne pas la langue en usage à Babylone au temps de Nabucodonosor. En effet, le Chaldéen de cette époque est très proche de l'hébreu, et en quelques mois, des jeunes gens intelligents peuvent les maîtriser sans difficulté. Ce qu'ils vont devoir apprendre est une littérature ancienne révolue qui est uniquement connue de la caste sacrée des mages appelés les Chaldéens. Ces hommes sont les dépositaires de traditions anciennes qui datent du temps des populations qui occupaient l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre avant les Chaldéens. Ils parlaient alors l'Akkadien, et les jeunes Israélites devront l'apprendre parce que c'est dans cette langue que sont écrits les livres sacrés, les formules magiques, les règles d'interprétation des songes, les recueils astronomiques et de physique, etc. Cette littérature représente une bibliothèque considérable dont nous possédons de nombreux fragments qui ont été déchiffrés. Contrairement à ce que pense le commun des mortels, tous les écrivains sacrés n'étaient pas de conditions humbles. Moïse était versé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et à son époque, on sait déjà que la Terre est ronde et on connaît la distance entre la Terre et le Soleil. En plus de la sagesse, Salomon était à la pointe du progrès dans toutes les disciplines scientifiques de son temps et lui-même était une véritable encyclopédie. Quant à l'apôtre Paul, c'est probablement l'un des hommes les plus instruits de son époque, car les cultures et philosophies grecques, romaines et juives n'ont pas de secret pour lui. Je continue le texte. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parce que ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient parmi eux Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abelnego. Selon une coutume en vigueur dans l'Antiquité, les jeunes gens reçoivent des noms nouveaux afin de parfaire leur immersion culturelle, et puis c'est plus commode pour tout le monde. Même aujourd'hui, certains immigrants adoptent un nom passe-partout facile à comprendre et à épeler. À un moment donné de son parcours professionnel, mon oncle a remis son nom de guerre quand il était dans la résistance, parce que ses amis et clients n'étaient pas capables de prononcer ou d'écrire correctement son nom alsacien à écrire et de consonance germanique. En second lieu, les Babyloniens donnent des nouveaux noms à Daniel et à ses amis pour des raisons idéologiques. C'est un lavage de cerveau en quelque sorte, dont l'objectif est d'inciter les jeunes recrues à abandonner leurs racines religieuses et à s'attacher aux dieux de leur pays d'accueil. De toutes les nobles de Juda qui sont choisis, seuls Daniel et ses amis sont mentionnés parce que c'est d'eux qu'il est question dans la suite du livre. On leur attribue des noms babyloniens, mais avec un sens religieux. Daniel, qui veut dire « Dieu est mon juge », est appelé Belshazzar, qui signifie « que le dieu Bel protège sa vie ». Ananias, qui veut dire « l'Éternel fait grâce », est appelé Shadrach, qui veut dire « je crains beaucoup un dieu ». Michaël, qui veut dire « qui est égal à Dieu », est appelé Meshach, qui signifie « je suis de peu de valeur devant mon Dieu ». Azaria, qui veut dire « l'Éternel est mon soutien », est remplacé par Abelnego, qui veut dire « serviteur de Nego », le dieu de la végétation. Mais ces changements de nom n'ont pas eu sur ces jeunes gens l'effet escompté, car la tentative de faire d'eux des Babyloniens dans leur tête comme dans leur accoutrement et comportement extérieur est un échec total. Je continue. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Ces 4 hommes acceptent bien de servir l'empereur, mais à une certaine condition. Étant donné que les mets de la table royale sont préparés par des païens, ils ne sont pas cachers. D'autre part, les Babyloniens mangent de tout et n'importe quoi, et donc des animaux déclarés impurs par la loi de Moïse. De plus, la viande provient d'animaux qui ont d'abord été sacrifiés aux idoles, et le vin aussi leur est dédié. Par contre, les légumes sont cachers parce qu'ils n'ont pas été consacrés à de fausses divinités. Si Daniel et ses amis acceptent le vin et la viande, ils violent la loi de Moïse et sont coupables d'idolâtrie. La devise à Paris « fait comme les Parisiens » ou à Babylone « fait comme les Babyloniens » est une philosophie très prisée de nos jours, mais qui ne convient pas du tout à des Juifs qui veulent rester fidèles à l'Éternel. Daniel et ses amis font partie de cette minorité d'Israélites justes qui correspond aux paroles de l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Cela dit, et contrairement aux Juifs fidèles qui sont obligés d'observer les règles cérémonielles et alimentaires de la loi de Moïse, aujourd'hui, les croyants ne sont pas concernés. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. » Je continue le texte. « Et Dieu accorda à Daniel la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensible. » L'attachement de Daniel au précepte de la loi de Moïse alors qu'il se trouve au milieu des séductions d'une cour païenne est le fruit de l'éducation pieuse qu'il a reçue dès son plus jeune âge. Suite aux réformes religieuses entreprises par le bon roi Josias avec l'appui du prophète Jérémie, l'Éternel honore la confiance et la fidélité de Daniel en orientant souverainement les autorités païennes en sa faveur. Un proverbe dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel, il le dirige à son gré. » Dieu ne permet pas que Daniel soit persécuté et s'arrange au contraire pour qu'on le respecte. Plus tard, il n'empêchera pas que Daniel soit attaqué, mais ce sera pour faciliter son élévation au plus haut poste de l'administration babylonienne. D'une manière ou d'une autre, Dieu honore ce qu'il honore. Le récit de Daniel rappelle beaucoup celui de Joseph, fils de Jacob. Ces deux hommes apparaissent l'un au commencement de l'histoire d'Israël et l'autre à la fin du royaume israélite. Et tous deux représentent le peuple élu fidèle à l'Éternel à la cour de rois païens. Comme Joseph, Daniel est irréprochable dans toute sa conduite. Et tous deux sont doués d'une sagesse surnaturelle, possèdent le don d'interpréter les songes et arrivent au plus grand honneur. Je continue le texte. Mais le chef du personnel lui dit « Je crains, mon seigneur le roi, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il le trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je paierais le prix de ma vie à cause de vous. » On comprend l'hésitation du grand chambellan, car il risque sa peau dans cette affaire. Il aime bien Daniel, mais se sent coincé entre le marteau et l'enclume. Je continue. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa « Fais donc un décès avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » Bien que dans un premier temps, le chambellan refuse la suggestion de Daniel, ce dernier ne se laisse pas abattre et porte son cas devant l'intendant dont il dépend. Le mot « légume » veut dire « ce qui est semé ». Il désigne donc aussi des céréales. Or, selon la loi de Moïse, rien de ce qui pousse en terre n'est impur. Donc, pour éviter de participer à l'idolâtrie babylonienne, les 4 Juifs veulent devenir végétariens. Mais à moins d'un miracle, ils vont en pâtir physiquement. Cependant, Daniel compte sur une intervention de Dieu et ce n'est pas vraiment présomptueux de sa part parce qu'il sait très bien que pendant 40 ans dans le désert, le principal aliment des Israélites a été la manne qui ressemble à des grains de coriandre blanche et qui avait un goût de beignet au miel. et le peuple de Dieu s'en est fort bien porté. D'ailleurs, avant d'entrer dans le pays promis, on lit dans le livre du Deutéronome que Moïse a dit aux Israélites, « Oui, l'Éternel, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. » De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Daniel sait qu'en obéissant à la loi, il honore l'Éternel. Je continue le texte. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Comme l'intendant est sous l'autorité du chambellan, il doit obtenir son aval. De toute façon, il ne prend pas de gros risques parce que 10 jours à ne manger que des légumes n'est pas une période suffisamment longue pour avoir un effet négatif sur la santé. Je continue. Et au bout de 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Test réussi. Comme Daniel et ses amis se portent mieux, et non plus mal que les autres stagiaires, on leur permet de continuer leur régime végétarien. Dès le début du livre, on constate que l'Éternel pose sa bonne main sur ces 4 jeunes gens parce qu'ils ont à cœur d'obéir à ses commandements. Cette histoire est une leçon pour le peuple élu qui a sévèrement été puni à cause de sa désobéissance persistante. Mais c'est aussi une leçon pour moi, qui, comme les rebelles, peut choisir d'en faire uniquement dans ma tête. Mais alors, je n'échapperai pas plus qu'eux aux conséquences de mes actions.